à voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Hervé Thémime. Ce soir, l'avocat et le temps qui passe.
Bonsoir Hervé Thémime.
Bonsoir.
Vous êtes avocat depuis 40 ans. Vous êtes donc bien placé pour nous dire si le métier d'avocat a changé et si oui, dans le bon sens. Quel rapport avez-vous avec le temps ? Est-ce que vous diriez que vous avez un bon rapport avec le temps qui passe ? Est-ce que vous entretenez des liens étroits avec le passé ? Ou est-ce que vous dites qu'il faut aller de l'avant coûte que coûte ?
J'entretiens, je crois, des liens trop étroits avec le passé. J'ai une tendance à la nostalgie. Pas vraiment à la mélancolie, mais oui, à la nostalgie, pour des raisons nombreuses et variées. Mais sur un plan professionnel, la principale est que les premières années que j'ai vécues au barreau de Versailles, avec notamment Jean-Yves Liénard, bien sûr, et une présidente de cour d'assises qui me commettait d'office sans cesse, qui était un très grand magistrat, qui s'appelait Madame Cochard. Donc pendant 4 ans, ces premières années ont été un rêve éveillé. J'avais la vocation d'avocat très forte, mais en fait je connaissais peu. J'avais une vision idéalisée, très très littéraire du métier. J'avais littéraire au sens où j'avais lu tous les livres d'avocats possibles et imaginables. Je les connaissais par cœur, mais j'avais pas fréquenté les palais de justice. Et c'est exactement comme si j'avais rêvé de rencontrer une femme que j'avais croisée dans la rue. Et puis que ça se faisait et que c'était mieux que mes rêves les plus fous. Donc j'ai abandonné toutes les études que je continuais de faire parce que j'étais très jeune, etc., etc. Donc les débuts ont été phénoménaux pour moi. J'en conserve un souvenir incroyable. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est évidemment, on se voit pas vieillir. Moi, j'ai toujours l'impression, je me sens beaucoup plus jeune que je ne suis, même si je suis pas un vieillard, faut pas exagérer. Et ça a passé, c'est impensable, quoi. Et 40 ans qui ont passé comme une lettre à la poste, c'est incroyable.
Vous ne citez pas seulement vos aînés. Vous avez cité tout au long de nos entretiens, entre autres, Francis Piner, Thierry Herzog, Pierre Haïc. Est-ce qu'on peut dire que vous appartenez à une génération d'avocats ?
Certainement.
Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous avez en commun ? Est-ce que justement c'est un passé que vous avez en commun ?
On a énormément en commun. D'abord, tous les avocats pénalistes ont énormément en commun. J'espère que vous me connaissez un peu mieux, mais pour que j'ai fondé l'association des avocats pénalistes, c'est qu'on a vraiment quelque chose en commun. L'idée d'association est contraire à mon caractère. On a énormément en commun et on est incontestablement une génération. Je dirais alors une génération d'avocats, on dit que c'est 10 ans. Je dirais que c'est même pas sur 10 ans, que les avocats qui ont prêté serment, je dirais entre 75 et 80. C'est une génération très particulière. Une génération qui a été contestée quand elle est arrivée. Parce que, brisant peut-être les codes de l'époque, avec des méthodes un peu plus professionnelles que celles, plus commerciales que celles des avocats passés. Comment vous dire, en restant humble, c'est une concentration de beaucoup, beaucoup d'avocats qui, 30 ou 40 ans après, continuaient à tenir les premiers rôles en tout cas au barreau de Paris, et si c'était un marché, ce qui n'est pas exactement le cas, à tenir le marché, avec des générations postérieures qui n'ont pas réussi à prendre la relève, ce qui va être, sauf exception notable évidemment, et ce qui va bien sûr être le cas aujourd'hui de la jeune génération en laquelle je crois énormément. Et oui, c'est une... Il y a, vous citiez, alors évidemment pour moi, Thierry Herzog et Pierre Haïc, c'est comme des compagnons de route et des amis très chers.
On peut être à la fois Hervé Thémime en amitié et en compétition.
Oui, bien sûr. Alors, sur 40...
Il n'y a pas de jalousie entre vous.
Si, il y a dû y en avoir. Non, bien sûr. Attendez, Je vais vous dire une chose. D'abord, moi, je pense, je sais pas si on a dit que j'étais un rock, moi, je fais partie des... La jalousie, c'est pas du tout mon... Moi, je déteste les gens qui regardent dans l'assiette du voisin. Et si quelqu'un... Non, vraiment, moi, j'ai... Je crois, si vous vous informez auprès des gens qui me connaissent le mieux, c'est mon cas aussi peu que possible. Maintenant, il y a évidemment des ambitions qui se heurtent à d'autres ambitions. Donc, sur une... Évidemment que sur 40 ans, il y a eu des périodes où même avec nos meilleurs amis, probablement nos rapports devaient être un peu viciés de ce fait-là. Mais je peux vous dire que sur la durée, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, qui n'existe plus du tout, mais plus du tout. Et évidemment qu'il y a des rivalités, mais elles sont pas si fortes que vous imaginez. Moi, c'est ma vision des choses. Alors, il y a des gens, il y en a, qui ont évidemment une conception et une manifestation de ça qui est très différente. Mais par exemple, enfin, vous voyez, je vous parle là de deux avocats, Thierry Herzog et Pierre Rey, que nous sommes exactement de la même génération. Nous avons été rivaux toute notre existence, et je crois que c'est difficile d'être plus unis aujourd'hui que nous le sommes. Pas seulement sur un plan professionnel. Sur un plan amical et personnel.
Vous avez reconnu Hervé Temim, bien aimé passer dans les médias.
Oui.
N'êtes-vous pas devenus les uns et les autres trop médiatiques avec les classements, les films, les plateaux de télévision?
C'est une critique qu'on peut... Alors, écoutez, les uns et les autres, moi j'assume pour moi, par exemple, Pierre Haïk et Thierry Herzog, sont plus discrets que moi, qui ne suis pas le plus, le moins. Je ne suis pas non plus un monstre de présence médiatique, ou alors je fais.
On va dire que vous êtes entre Pierre Haïck et Éric Dupond-Moretti.
Voilà, sans doute, c'est exactement ça. Mais vous voyez, de la même manière que j'apprécie ça chez Pierre Haïk, je ne le reproche pas à Éric Dupond-Moretti. C'est sa liberté et son envie. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui très récemment. Vous savez, la crédibilité à un avocat, qui est une chose essentielle pour un avocat, elle n'est pas liée à son image publique. Quelle qu'elle soit, je dis pas que l'image d'Éric n'est pas bonne, je pense en plus qu'elle est bonne. Elle est liée à ce que vous faites, ce que vous exprimez dans un prétoire. Croyez-moi, un procès, c'est un combat. Alors il peut être feutré, quand il peut être très violent. Et dans un procès, ce qui compte, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous faites, c'est la maîtrise du dossier, c'est la maîtrise de la procédure, c'est la maîtrise des débats, c'est la plaidoirie. C'est pas de savoir si la veille vous étiez en train de préparer votre dossier ou si on vous a vu, je sais pas, à la télé, dans un débat enregistré ou même en direct. C'est le résultat qui compte. Voilà. Alors, en même temps. Moi qui ai eu cette passion pour Émile Pollack, il y a un truc qui m'a toujours tellement amusé que me racontait Jean-Louis Pelletier. Émile Pollack, à la fin de sa, enfin, dans les dernières années de sa vie, il est mort très jeune. Il était devenu très connu. Pas Floriot était plus connu que lui, mais il était très connu. Et surtout au sud de la France, mais même partout. Il a plaidé l'affaire Dominici, Guérini, etc. Très connu. Vous savez ce qu'il faisait? Quand il plaidait, il faisait exprès d'être mauvais au début. Parce qu'il se disait, les gens m'attendent, ils pensent que je vais les... Et c'est vrai, c'était un ensorceleur, c'était un type qui avait une éloquence absolument inimaginable, une faculté d'évocation, un cœur, un humour, un esprit, il était génial ce type. Et au début, il faisait semblant, il voulait susciter cette réaction des gens qui étaient... C'est ça, Pollack, ah ben dis donc. Et puis après, boum! Il leur fonçait dessus, leur donnait le compte, si j'osais parler vulgairement. Donc, voilà, c'est sûr que si vous voulez, et je crois qu'il en est très conscient, Éric Dupond-Moretti, il arrive dans une cour d'assises, dans un tribunal, tout le monde sait qui il est. Donc
Il
tout
y
le
a du
monde.
comédien dans chaque avocat.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, moi, j'ai. Dans le petit bouquin que j'ai écrit maintenant, il y a 6 ans, j'ai consacré un chapitre à ça, qui était Ronde-cuir ou saltimbanque. Il y a de l'artiste raté chez l'avocat. Mais, parce qu'il y a quand même des similitudes, il y a quand même un moment où l'avocat ou l'avocate est quelqu'un qui est face à un public et avec des mots, il doit essayer d'emporter sa conviction. Alors la conviction n'est pas la séduction, le rire ou l'émotion, mais il y a tous les ressorts de la rhétorique. Mais il y a quand même une grande différence, une énorme différence. D'abord, au profit de l'artiste, même l'avocat le plus créatif n'a pas ce don artistique. Pollack, peut-être, par moments, tutoyait les cimes. Mais bon, attendez, faut arrêter. On n'est pas des artistes, bien sûr que non. On n'a pas ce don artistique. Et deuxièmement, au profit des avocats, il y a une autre différence. C'est qu'à la fin du procès, on n'attend pas les vivas du public, les bravos de la foule ou les cageots de tomates. On attend le verdict. Et l'avocat, quelle que soit sa notoriété, inconnu ou le plus médiatique du monde, il doit viser qu'une chose, c'est le résultat.
Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de procès ? Un procès judiciaire et un procès médiatique ? Est-ce qu'on peut gagner un procès dans un tribunal et le perdre devant l'opinion publique ? Je pense par exemple à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, mais il y a beaucoup d'autres exemples.
Bien sûr, c'est même, je vais vous dire, c'est même... Et là, ça mériterait non pas 5 interviews, mais en tout cas un long développement. C'est même un des problèmes de notre époque qui a toujours existé, mais qui est amplifié par l'hypermédiatisation des faits divers. Enfin, elle existait, les réseaux sociaux, tout ce que vous savez. C'est un véritable problème parce que, bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, la présomption d'innocence n'est pas respectée. Même pas la peine d'en parler, c'est comme le secret de l'instruction. Oui, c'est un principe qui existe. Le principe existe et il est fort, mais il est battu en brèche en permanence.
Ça vous met en colère ?
Ah oui, ça me met vraiment en colère. Vous savez, une des choses bien que j'ai faites, mais pas suffisamment, et que je vais reprendre, c'est qu'en fait, ça me met tellement en colère qu'une nuit d'insomnie, je trouvais pas le moyen de réfléchir à ça. Et je me suis dit, mon Dieu, il faudrait qu'il y ait une sorte... Là, j'étais trop ambitieux, hein, de Mediapart, de la Défense, quoi. Et j'ai acheté tous les noms de domaines présumés innocents. Et j'ai trouvé de jeunes étudiants de Sciences Po pour faire fonctionner le site dont je n'étais que le parrain et le petit mécène. Je dis petit parce que ça coûtait pas très cher. J'ai donc pas fait beaucoup. Et malheureusement, ça n'a pas eu l'essor que ça pourrait avoir eu. Et ça s'est arrêté. Mais là, je vais le reprendre. D'une manière beaucoup plus professionnelle. Je pense que, si vous voulez, je pense que la défense des grands principes de notre justice est quelque chose d'essentiel. Et que ça passe par le fait d'apporter au public la culture de ce qu'est, justement, le fonctionnement idéal et normal, en tout cas, normal de notre justice. Les gens ne savent pas. Vous savez, ça m'arrive parfois. Je suis stupéfait. Je discute avec des gens qui ont parfois fait de grandes écoles, pour des métiers, bref, ils savent pas que...
On dit effectivement que les Français ont beau être fascinés par les faits divers, ils connaissent très peu le fonctionnement de leur justice.
Ils savent pas qu'on peut... Et je vous promets que c'est vrai, je viens de plaider, enfin, c'était les débats, je suis dans une affaire où je dois plaider d'ailleurs demain, et à un moment j'interviens, parce que je trouve que le président fait des remarques... qui ne sont tout à fait déplacés, et elles le sont. Et je lui dis un peu en taquinant, hein, de manière provocatrice. Et puis d'ailleurs, au passage, ce président, enfin, peut-être pas très important, me direz-vous, il est présumé innocent. Donc, peut-être pourriez-vous au moins utiliser le conditionnel pour qu'on fasse semblant d'imaginer que les dés sont pas pipés et que son sort n'est pas joué avant même que les débats soient clos. Un truc comme ça. Et là, le président, je vous plaisante pas, en correctionnel, hein, à Paris, me dit « Ah, mais maître, il est prévenu ». Je crois que le président plaisantait. Il ne savait pas, c'est un cas particulier, hein, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup des comme ça, il ne savait pas que la présomption d'innocence vaut jusqu'à la condamnation définitive. Ses assesseuses étaient ébahies. J'ai cru qu'il était au deuxième degré au départ. Non, il n'était pas. Bon. Parlons pas des magistrats qui, en principe, connaissent ces règles, mais les appliquent pas toujours. il y a un besoin de pédagogie à l'égard du public sur ce qu'est la justice.
Est-il possible aujourd'hui, en France de parler justice sans évoquer l'affaire Outreau? Est-ce que, il y a un avant après l'affaire Outreau, le juge désacralisé, l'avocat tout-puissant?
Eh bien, il devrait, mais je crois qu'on peut dire non. D'abord, le juge d'instruction de l'affaire d'Outreau n'a encouru aucune responsabilité personnelle significative, rien du tout. La commission de réforme de la justice qui a été mise en place après le procès d'Outreau, ou l'affaire d'Outreau, pardon, n'a accouché de rien. Et rien n'a changé. Alors, des avocats, dont Éric Dupond-Moretti, dont Franck Berton, se sont illustrés dans cette affaire et effectivement ont, eux, pu, et avec beaucoup de pertinence, dénoncer les dysfonctionnements qui étaient majeurs, qu'avait connus la justice dans l'affaire Outreau. Mais est-ce qu'il y a un avant et un après Outreau? Non. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après l'affaire de Bruy-en-Artois? Non. Est-ce qu'on a tiré les conséquences de scandales judiciaires ou d'erreurs judiciaires criantes? Non. Mais est-ce que c'est possible? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'il y a un système, et je le dis sans découragement, hein, est-ce qu'il y a un système dans lequel il n'y a pas de tragédie de ce type? Non. Je vais vous dire une chose, c'est pas du tout pour baisser les bras que je vous dis ça, bien au contraire, hein, parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Mais à l'époque où je présidais l'association d'avocats pénalistes, j'avais été invité par des avocats anglais à être l'orateur, avec un traducteur, d'un colloque sur la procédure pénale. Eh bien, en Angleterre, il n'y a pas de juge d'instruction. Bon, eh bien, les Anglais qui venaient de connaître des erreurs judiciaires dramatiques, notamment des affaires liées à l'IRA, avec des détentions provisoires de 13 ans ou 18 ans dans une affaire à l'époque où j'y suis allé, ils étaient fascinés par le système du juge d'instruction. On trouve toujours l'herbe plus verte ailleurs. Moi, je vais vous dire une chose. La justice française, elle est incroyablement critiquable. Mais le hasard fait que j'ai eu beaucoup d'affaires qui m'ont amené à fréquenter, à côtoyer les justices étrangères. C'est presque pire partout ailleurs. Ce qui n'est pas pire ailleurs, c'est qu'il y a plus de moyens. Et qu'à mon sens, il y a une meilleure relation entre les magistrats et les avocats qu'en France, où la méfiance est la règle quand la confiance devrait dominer nos relations. Mais, vous savez, j'invite tous mes confrères et tous mes amis à aller voir ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, c'est pas réjouissant, hein.
Mais est-ce que donc, Hervé Temim, vous pourriez dire à un de vos clients, il faut avoir confiance en la justice de son pays?
Non, jamais. Ça, là, faut pas exagérer quand même. Non, bien sûr que non. On peut avoir confiance en certains juges, il y a de très grands juges, mais l'aléa est trop grand, c'est une loterie épouvantable. Non, il faut espérer que le système va fonctionner. Mais c'est un système qui fait peur.
Sommes-nous dans une république des avocats? L'expression a longtemps signifié des liens étroits entre politique et avocat. On en parlera. Aujourd'hui, elle signifie tout simplement la toute-puissance des avocats.
Je pense qu'on n'est pas dans une république des avocats, mais personnellement, alors je suis à contre-courant de beaucoup de mes confrères, je suis très optimiste pour l'avenir de la profession. Je pense que les avocats vont être, alors là, pour le coup, risquent d'être détestés, ce qu'à mon sens, ils ne sont pas aujourd'hui, mais vont prendre une place de plus en plus grande dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Et je pense que, contrairement à ce que beaucoup craignaient à une époque, c'est pour ça qu'on a fondé l'Association des avocats pénalistes, l'avenir des avocats pénalistes est radieux. Il sera pas radieux pour beaucoup de gens, mais plus qu'on imagine, parce que à terme, tout ce qui est défense des commissions d'office, l'aide légale, va être évidemment réformé. Il faut avoir, évidemment, il faut faut faire une analyse prospective de la situation, mais donc la défense des gens les plus démunis va être améliorée avec nécessairement un jour ou l'autre des moyens beaucoup plus grands. Et puis le champ du pénal, il est énorme, il a jamais été aussi grand. Il y a un avenir extraordinaire pour les jeunes avocats pénalistes. Il faut pas être découragé du tout.
Nombre d'hommes politiques, de Jean-Louis Borloo à Nicolas Sarkozy, sont avocats. Vous avez une explication ?
Oui. J'ai d'abord en ce moment pas assez, à mon avis. Pas assez. Je pense que ce serait mieux d'avoir moins de technocrates à la tête de notre pays que ce qu'on vit. Et l'ouverture à la société civile, c'est un autre sujet. Mais bon, moi, je vais vous dire une chose. J'ai fait Sciences Po et j'ai quitté Sciences Po quand j'ai prêté serment parce que je supportais pas l'esprit qui y régnait à l'époque. Et j'ai donc, ne supportant pas cet esprit, j'y étais en 1978, une époque où Sciences Po était très différente d'aujourd'hui, mais où la plupart de ceux qui y étaient se rêvaient ministres ou hauts fonctionnaires. Et j'ai toujours défendu, avant même de faire du droit, j'ai toujours défendu la rhétorique des avocats. Toujours. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Quel que soit notre niveau d'aujourd'hui, on s'est bonifié. C'est peut-être vous dire d'où on partait, hein. C'est peut-être pas très réjouissant sur le point de départ. Parce que les avocats, ce sont des gens qui, contrairement à ce qu'on croit, vous savez, on parle de notre ego, l'éloquence, etc. Un avocat, c'est quelqu'un qui n'est jamais dans le discours. Il veut toujours convaincre. Qu'on aime ou pas Nicolas Sarkozy, quand on l'écoute, et quand on l'écoutait, c'est un type dont vous aviez l'impression qu'il sortirait pas de la conversation avant d'avoir obtenu votre assentiment, avant de vous avoir convaincu. Fantastique. C'est pas le discours en trois parties, la thèse, antithèse. On s'en fout. Ce qui compte, c'est pas forcément de bien parler, c'est de gagner. Et les avocats, c'est ça. Et vous disiez, bon, Jean-Louis Borloo, je peux même pas vous en parler, c'est un ami personnel. J'adore Jean-Louis Borloo et c'est pareil. Mais Mitterrand, Obama, Clinton, partout. Évidemment. Moi, je trouve que c'est pas un hasard. Par contre, je pense que c'est pas facile de passer de beaucoup de ceux dont on parle sont des avocats de formation qui en fait ont mené une carrière politique pendant une longue partie de leur vie. Parce que c'est pas facile de moi, je me verrais pas à supposer que j'ai des convictions suffisantes. Un jour, on m'avait fait une proposition. Un jour, un ami, je lui dis, mais j'ai pas de conviction assez forte pour pouvoir courir sous cette bannière-là. Il m'avait dit, mais justement, oui, le cynisme du politique. Mais bon, il faut des qualités. Moi, je pense que c'est en partie un métier. Mais sur le plan de la rhétorique, il n'y a pas de doute. Et alors, sur le plan, je dis toujours en plaisantant, vous savez, celui qui est avocat depuis un certain temps et qui est plus bête, plus con qu'il n'était, mais il faut l'empailler, c'est impensable. Vous vivez que des choses et des situations qui ne sont pas écrites. Vous n'avez jamais étudié ces situations, c'est dans aucun livre, dans aucun manuel, c'est inimaginable. Vous comprenez que des riches peuvent voler, que des violents peuvent être doux, que des doux peuvent tuer. Vous êtes en permanence confronté à la richesse de l'humanité, à l'imprévisibilité de l'existence et à une variété de situations telles que ça vous aiguise sérieusement la sensibilité et la capacité de comprendre toutes les situations.
Diriez-vous qu'aujourd'hui, les avocats représentent en France un contre-pouvoir ?
Oui.
Et est-ce que c'est une bonne chose ?
Oui, parce que je crois que aujourd'hui, dans une époque aussi formatée, où tout est sujet à polémique, où le moindre propos qui n'est pas dans l'air du temps ou dans la pensée unique paraît choquant, les avocats conservent une liberté de ton, une liberté de propos qui est extrêmement rare. Et la fréquentation des audiences vous permettrait ou vous permettra de constater qu'il y a une liberté de parole dans les procès qui n'existe, à mon avis, nulle part ailleurs. Car quand même vous voyez la liberté d'expression qui peut exister dans des enceintes politiques comme l'Assemblée nationale, les gens sont dans des postures. Ils courent pour une bannière. Nous, c'est complètement différent. Et je pense qu'un avocat, des avocats, peuvent dire ce que seuls ou quasiment eux seuls aujourd'hui peuvent dire. Et j'en connais beaucoup qui ont usé et qui usent et abusent encore de cette liberté. Et oui, c'est bien.
Vous détenez des secrets économiques, politiques, intimes. Est-ce que ce n'est pas trop de pouvoir, hein?
Alors, il y a beaucoup de fantasmes, c'est vrai, mais ces secrets, en tout cas, bien des secrets n'ont pas la portée qu'on peut leur prêter parfois. Et par ailleurs, les secrets les plus lourds qu'on détient, et c'est vrai que c'est... Alors là, c'est quelque chose de très particulier, voire même de très exceptionnel, ce ne sont pas des secrets qui vous donnent du pouvoir. C'est plutôt des secrets qui vous obligent.
Vous êtes, en étant avocat, au plus près des hommes et des femmes. Vous les voyez démunis psychologiquement. Ma dernière question, c'est est-ce que quand on est avocat, on n'est pas désabusé sur la nature humaine? Et qu'est-ce que vous avez appris de l'homme en le voyant de si près pendant si longtemps?
Je crois que j'ai à la fois tout et rien appris, car je commets exactement les mêmes erreurs que celles que j'ai toujours commises. Mais par contre, j'ai acquis une expérience incommensurable des secrets et des trésors que peut révéler la nature humaine. Est-ce que pour autant, et parfois, je dois vous le dire, hein, la face la plus sombre de la nature humaine. Est-ce que pour autant je suis désabusé? Eh bien, je vais vous dire une chose que je m'explique pas. C'est presque le contraire. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout atteint par ça. Au contraire, je suis peut-être plus naïf encore dans ma vie personnelle que je ne l'étais avant. Ce qui m'a perturbé et ce qui me perturbe, c'est qu'en revanche, sur un plan professionnel, c'est vrai que là, j'ai développé une certaine forme de paranoïa par rapport au comportement de pas mal des acteurs qu'on peut rencontrer. Donc je suis d'une prudence extrême, ça c'est vrai. Mais c'est sans doute une réponse décevante pour conclure, parce que je ne me l'explique pas, c'est presque comme si d'avoir été justement détenteur ou spectateur de tant de trucs pas forcément terribles que j'aurais imaginé ne m'avait pas rendu presque plus naïf dans ma manière de vivre.
Merci Hervé Temim.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Hervé Temim. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Jean-Marie Porcher, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.